Vous écoutez
RMC.
RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
On va reparler de la civilité, on va reparler des amendes pour des tenues correctes exigées. Bon, le civisme qui est aujourd'hui au cœur de notre société, on en parle avec Étienne et avec Guillaume.
Effectivement, alors ça fait très peur parce qu'on se dit un type se promène torse nu, il va être opéré, il va recevoir chez lui 6 mois plus tard la contravention comme quoi il a été vu torse nu à Arcachon pendant l'été. Donc on se dit jusqu'où ça peut aller, l'hyper contrôle de notre vie privée. Là, si tu veux, moi ce qui la limite, c'est quand même que la personne torse nu en ville ne met en danger personne, quoi.
Guillaume, bonjour.
Bonjour les grandes gueules.
Je vous laisse dialoguer avec Étienne, allez-y.
Bonjour Étienne.
Bonjour. Alors,
tout d'abord, t'es quelqu'un que j'aime bien, mais là ce matin tu m'as un petit peu agacé.
Chouette.
Surtout qu'en tant qu'éducateur, où notre fonction c'est quand même de poser le cadre, de pouvoir dire que de se promener torse nu en ville, c'est interférer dans la sphère de la vie privée, si la police sanctionne. Moi, je pense que quand on est en ville, on n'est plus dans la sphère de la vie privée. Et à un moment donné, c'est juste des règles pour bien vivre ensemble. Chez lui, qui peut se promener tout nu, il peut faire ce qu'il veut, ça le regarde. Mais en ville, par rapport aux autres, moi, ça me dérange un petit peu. Mmh. Ouais, et en tant qu'éducateur, de pouvoir tenir ce genre de discours, de dire, voilà, il y a un cadre et je remets en place le cadre sans arrêt, ça me paraît un peu paradoxal.
Il ne se promène pas tout nu, parce qu'il y a une législation sur la nudité. Donc si tu veux, là au moins c'est clair, le mec qui se promène tout nu, il tombe sous une législation nationale sur la question de la nudité, et voilà. Donc, pour être tout nu...
Sachant que lui, il a le droit de montrer ses seins et pas les femmes.
Voilà. Alors,
c'est quand même un scandale.
C'est comme ça. Mais sur la plage, sur les plages nudistes, on a le droit d'être tout nu, en ville on n'a pas le droit, donc nulle part on a le droit d'être tout nu, donc ça c'est clair. Sur la question du torse nu...
Mais
torse nu, t'as pas une législation, si tu veux, qui existe aujourd'hui, qui dit, voilà, vous n'avez pas le droit de vous promener torse nu. Donc ce qui existe, c'est le fait qu'on fait appel au bon sens de chacun et au civisme de chacun, en disant faites attention, si vous vous promenez torse nu, vous risquez de choquer des gens parce qu'eux n'ont pas envie de vous voir torse nu. Mais encore une fois, je répète, cette question-là, qui s'apparente quand même à de la pudeur, est une question qui est très subjective et qui en plus est très liée à la culture dans laquelle on appartient.
Oui, puisqu'à l'époque on disait outrage public et à la pudeur.
Voilà.
Tu étais passible
donc
de l'amende.
Jusqu'en
1994.
Si tu es allemand ou si tu es hollandais ou si tu ne vis pas exactement la même chose que si tu es espagnol ou portugais dans cette façon de vivre la pudeur. Donc nous en France, on estime, mais encore ça dépend, moi je me rappelle très bien, avant, dans le temps, quand j'étais plus jeune, on voyait beaucoup de gens torse nu au bar, dans les cafés, au bord de la mer, qui prenaient une bière, qui prenaient à boire. Aujourd'hui, on en voit beaucoup moins. Et on en voit beaucoup moins parce que je pense, et c'est ce que j'essayais de défendre, que notre seuil de tolérance à cette nudité du haut a baissé. Et qu'elle a baissé parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de seuils de tolérance qui ont baissé. De la même manière qu'on supporte plus le coq qui crie, on supporte plus non plus un groupe de gamins qui courent parce que ça fait du bruit. Ouais. Il y a des tas de choses qu'on ne supporte plus. L'autre jour, j'ai vu des jeunes filles qui rigolaient très fort, comme rigolent les jeunes filles. Il y a des gens qui étaient offusqués. Oh là 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 là, alors les filles maintenant, comment elles rigolent? Mais les filles ont toujours, et les garçons ont toujours rigolé quand ils sont adolescents. Ils ont toujours eu l'air très niais de se raconter des blagues et de rigoler très fort. Ça a toujours été comme ça depuis la Grèce antique. Mais aujourd'hui, on ne supporte plus cela. On prend ça comme une agression.
Marianne,
c'est aussi un truc d'éducation, parce que je vais en profiter pour faire une bise à ma mère. Elle a toujours hurlé quand on était petit. On avait interdiction de venir torse nu à table.
Ouais.
C'était impossible.
Ouais, ouais. Mon cher Guillaume, merci. Dans un instant, Marie-Lou, du côté des Bouches-du-Rhône, pour reparler avec Maxime Liedo de l'affaire Jeffrey Epstein.
Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter?
RMC.
Nous sommes de retour.
Pour jouer un mauvais tour.
Afin de préserver le monde de la dévastation.
Afin de rallier tous les peuples à notre nation.
9h midi.
Afin d'écraser l'amour et la vérité.
Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée.
Alain Marshall.
Et Houston, on a un problème.
Vous êtes des grands malades.
Vous massacrerons jusqu'au dernier.
On peut discuter, peut-être.
On ne peut ni les acheter, ni les persécuter, ni les raisonner.
Les grandes gueules.
Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit.
Les GG, les grandes gueules, RMC, RMC Story. Avant de continuer le GG, vous avec Marie-Lou qui veut donc rediscuter, qui veut discuter avec Maxime, c'est monsieur Emmanuel Le Chypre qui vous présente Radio Brunet, midi 14h sur RMC. Bonjour monsieur Emmanuel.
Bonjour à tous. Eh ben, on va commencer par les fruits et légumes. Aujourd'hui, parce que c'est bien beau de nous inciter à manger de plus en plus de produits sains, sauf qu'il faudrait qu'ils ne soient pas de plus en plus chers et de moins en moins bons. Si vous voyez l'effondrement des qualités nutritionnelles de ces produits, c'est catastrophique. Une pomme d'il y a 50 ans, il en faut 100 aujourd'hui pour avoir les mêmes qualités nutritionnelles et à coûter beaucoup moins cher. Et puis alors un coup de gueule,
40
un coup de gueule. Ouais.
40 pesticides dessus quand même.
Un coup de gueule dans la deuxième heure. Français, vous ne savez pas gérer votre argent. Il n'y a pas un pays dans lequel on épargne autant et il n'y a pas un pays dans lequel on gère aussi mal son pognon où on le met sur des placements qui rapportent rien. Alors, on décortique tout ça et nous, on dit que bien gérer ses économies, ça doit devenir une priorité parce que de plus en plus, eh bien, vous allez devoir financer vous-même tout ce qui concerne votre protection sociale, votre retraite, etc. Donc, il est urgent de s'y mettre à la culture financière.
32-16 pour réagir avec l'ami Manu Le Chypre tout à l'heure dans Radio Brunet, à écouter à la radio sur RMC. Suite du GG, vous, l'affaire Jeffrey Epstein qui nous a mobilisé aujourd'hui, la crédibilité de la thèse du suicide, la ramification éventuelle en France, les espèces de théories sur les protections dont aurait pu bénéficier Jeffrey Epstein. On écoute le camarade Maxime Liédo et il en parle avec Marie-Lou.
C'est quand même un accord où finalement il a fait à peine 13 mois de prison sur je sais plus combien d'années requises, et c'est surtout que il a été permis ou il a été autorisé pendant 6 jours sur 7 finalement à aller travailler, c'est-à-dire que ça n'a rien changé dans sa vie. Mais il y a quelque chose de d'un peu gênant à savoir et à réaliser que quelqu'un voilà qui avait de l'argent, qui avait du pouvoir a pu continuer librement à travailler et à faire ses affaires pendant 6 mois alors qu'il était condamné.
Marie-Lou, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour les grandes gueules et surtout bonjour Maxime.
Bonjour Marie-Lou.
Alors voilà. Allez-y Marie-Lou.
Alors je vous critique pas du tout, hein, sachez-le, parce que moi j'adore toutes vos interventions. Hein.
Ah ben merci.
Mais là j'ai été surprise, surtout parce que vous avez l'air étonné que Monsieur Epstein retourne à la vie active comme si de rien n'était. Alors moi, je voudrais vous donner simplement des exemples parce que on a eu en France, c'est exactement la même chose. Hein. Le premier des grands menteurs, qui c'est Mitterrand. Tout le monde savait les mensonges qu'il disait, les mensonges qu'il faisait
sur sa vie privée.
Surtout. Ah oui.
Il n'a jamais eu de condamnation surtout. En fait, Marie-Lou. En fait, on comprend pas du tout de quoi vous parlez là.
Il n'a pas été condamné, Mitterrand.
Non, mais sans être condamné, mais je veux dire, tout le monde savait les Benalla, ou alors DSK, je veux dire, ils retournaient à la vie normale, comme si de rien n'était, quoi. Je veux dire, c'est tout ce que je veux dire, que malgré les mensonges, malgré que tout le monde savait, ça les a pas empêchés de retourner à la vie normale, quoi, voilà.
Bah oui, mais c'est justement ce que je dis, bien que les exemples soient, je pense, un peu confus. Vous vouliez dire, en gros, que, notamment dans l'affaire Benalla, tout le monde semblait connaître Alexandre Benalla et des agissements, on va dire, peu conventionnels, mais pourtant tout le monde s'en accommodait.
Après, il y a ce qui tombe sous le coup du délictuel.
J'allais dire, après, il y a ce qui tombe sous le coup de ce qui peut être moral et non, et là, c'est plus compliqué, et ce qui tombe sous le coup de la justice. Mais en effet, je constate toujours avec un étonnement qui, visiblement, ne s'estompe pas avec le temps, que malgré certaines condamnations ou malgré certaines infos qui révèlent des pratiques condamnables, parfois, on continue justement à vivre totalement sereinement. Quand ce dernier a été condamné 6 jours sur 7, une fois de plus, il travaillait pour son entreprise. La seule, avec des guillemets, condamnation qu'il a eue, c'était l'inscription sur des fichiers sexuels, mais ça ne l'a pas visiblement empêché de continuer ses passions un peu malsaines. Donc c'est vraiment de ça dont je m'étonne en permanence, que dès qu'on tourne autour de certains puissants, non pas que la pédophilie ne soit pas l'affaire de d'autres catégories sociales, mais que dès que ça s'affaire autour de personnes un peu puissantes, on remarque une certaine légèreté.
Oui, mais en ce qui concerne Epstein, en 2007, il y avait une première affaire. Il plaide coupable en 2008.
Oui, mais en 2008, c'est l'inscription au fichier sexuel. Voilà, mais entre-temps, il est condamné.
Derrière, si tu veux, il se soigne, il fait amende honorable, il fait tout ce que la justice... Alors, ça peut être honteux, hein, ça pouvait vous dire, oui, c'est scandaleux, mais il fait tout ce que le parcours judiciaire lui dit de faire et lui permet de faire.
Mais je dis pas. Et après, je dis juste que c'est assez étonnant de remarquer que malgré ces faits, il ne soit pas enfermé. Je crois que c'est sur les 13 mois de prison. Bien sûr, une fois de plus.
Enfin, il y a des gens qui ont été condamnés à 6 mois avec sursis pour des viols.
Je trouve juste que parfois le système judiciaire me paraît un peu.
Merci Marie-Lou, dernier GG. Vous avec Étienne Liebig, on va reparler de la photo postée par Eric Woerth. Vous savez sur son escalade. Du côté du Mont Blanc, alors photo qu'il a envoyée, qui était truquée ou pas, ou en tout cas elle a été moquée par les réseaux sociaux. On réécoute Étienne et tu en parles avec Karine.
Quelqu'un prend la photo et peut-être fait une blague. Non, franchement, j'aime bien Eric Woerth, mais ça tient pas la route quand même. L'idée, on voit bien les deux personnages qui sont à 45 degrés et c'est vrai que ça tient pas vraiment la route. Il y a pas de non, puis on peut pas imaginer qu'Eric Woerth soit un menteur.
Oui, non, mais
dans son histoire, tout prouve qu'il ne l'a jamais été. Donc si tu veux, ça serait
non, mais là, Karine, bonjour.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Allez-y.
Bonjour Étienne.
Bonjour.
Donc voilà. Alors déjà, je t'aime bien, mais j'ai sauté sur mon canapé quand j'ai entendu ce que tu as dit. D'une part, la photo est vraie. Donc il y a un tweetos qui a fait pas mal de tweets qui répond aux gens qui connaissent bien l'endroit, qui explique tout, la languette, etc. Mmh. Maintenant, quand on regarde les personnages soi-disant qui sont debout, eh bien quand on zoome vraiment et qu'on retourne la photo, les personnages ne sont pas debout. Enfin, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui était debout, les genoux complètement pliés, complètement arc-boutés. En position d'escalade, où j'avais l'impression comme si c'était des gens qui faisaient un saut, comme on fait dans une montagne, quoi, et qui, bam, atterrissent. Donc, cette photo, elle est vraie. Je connais très bien Eric Woerth. Personne n'a utilisé son compte. Il laisse pas son compte Twitter à n'importe qui. Donc, la photo, elle est prise à 45 degrés. Elle est sous le goulet à 200 mètres, à 200 mètres sous le sommet, pardon. Donc, ce tweeto s'explique bien. J'ai envoyé la photo de ces deux soi-disant personnes debout en message privé à Marianne pour qu'elle se rende compte qu'effectivement il y a quand même un problème dans ces gens qui seraient soi-disant debout. Je suis un petit peu étonnée. Eric Woerth est effectivement de l'alpinisme depuis des années.
Ah mais c'est...
Donc pourquoi cette année il en porte tous les ans.
Oui, c'est
tous
vrai. Bon, on l'a dit, on l'a rappelé. Effectivement, c'est ça. L'alpinisme, c'est sa passion et régulièrement, il poste des photos.
Tout le monde l'a dit.
Étienne Liebig.
Oui, moi, écoutez.
Je serais mis à poser une photo bidon. Ça n'a pas de sens. Eric est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Ça se voit pas toujours forcément comme ça, mais je peux vous certifier qu'il a beaucoup d'humour. Mais il n'est pas complètement débile pour poser une photo.
On a vu des choses.
D'autre part, j'ai un message pour toi, Étienne, parce que moi j'ai appelé Eric pour lui dire que j'allais intervenir dans l'émission.
Heureusement que tu m'aimes bien.
Et donc, il m'a dit qu'il te propose de venir. Il est à Chamonix, vérifier. Évidemment, il ajoute donc il te faudra quelques crampons et du souffle.
Non,
ferez la même photo ensemble.
Non,
il est prêt à venir te chercher au train demain matin.
Jamais de la vie.
Et tu verras que cette photo n'est pas truquée. Quant au fait de dire Eric, oui, de toute façon, tout le monde sait bien que c'est pas un menteur de façon ironique. Non, Eric n'est pas un menteur. Tes opinions politiques, je les respecte. Tu penses ce que tu veux. Mais de là à humilier un homme et que tous les médias s'y mettent, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les médias sont devenus un grand Twitter où les tweetos disent n'importe quoi, pas un a appelé le guide.
De toute façon, je peux pas te répondre, j'ai plus le temps. Hein, mais écoute.
C'est ce que je voulais
qu'est-ce
dire.
Qu'est-ce que je te dise ? Alors, j'irai pas à Chamonix parce que j'ai déjà été invité chez tous les agriculteurs de France parce que j'ai dit qu'il y avait plus d'insectes, donc déjà ça me fait une grande balade en France. En plus, je déteste la montagne, mais alors j'ai horreur de ça, le froid, la neige, tout ça. Tout le monde sait que Woerth est un très bon alpiniste. Moi, j'ai vu le truc, j'ai vu des copains qui avaient repéré le cordon qui était pas perpendiculaire à la pente. Ça m'a fait marrer. Je trouve pas ça non plus dramatique.
Mais
j'ai dit que c'est quelqu'un qui a pris la photo. J'ai pas dit que c'était Woerth lui-même parce que c'est pas lui qui a pu même s'il est très doué en montagne, il peut pas prendre sa propre photo de lui-même. Donc j'imagine que c'est quelqu'un qui l'a prise et qui l'a mis sur les réseaux.
Merci,
Karine. C'est pas dramatique.
On se retrouve demain avec Jacques Maillot, Didier Giraud, Étienne sera encore avec nous et à à 11h, nous serons avec un colonel des pompiers, le colonel Hugues de Regnaucourt, qui est vice-président de la Fédération nationale des pompiers de France. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce qui était le cœur et une spécificité française, l'engagement désintéressé des pompiers, eh bien aujourd'hui, on commence à avoir du mal en France à trouver des pompiers, et c'est peut-être le pompier une espèce en voie de disparition. Passez une bonne journée et à demain 9h.
RMC, les grandes gueules.